Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes bien, il est midi, vous êtes bien sur Radio Audio le 895 et vous écoutez l'émission du numéro 0 comme tous les 15 jeudis du mois. et aussi rediffusé le jour même à 17h. Alors, le numéro 0, c'est un site d'information indépendante et participative dans la mesure où tout un chacun peut diffuser des articles du sujet donc qui le concerne ou qui l'intéresse. Et puis, c'est aussi une version papier diffusée de temps en temps. Et donc, une émission radio, un jeudi sur deux. Voilà, à vous de trouver le bon, comme dirait l'autre. Et alors, aujourd'hui, nous allons parler de plein de choses, ça va être très varié. On va commencer par revenir sur les événements et les luttes qui ont eu lieu à Rosarno, en Italie, en Calabre, dans le sud, n'est-ce pas, où les travailleurs immigrés, les travailleurs de agricoles se sont fait agresser, mais auxquels il y a eu un mec qu'ils ont riposté, etc. Donc on va faire un récit de tout ce qui s'est passé, notamment diffuser un communiqué qu'ils ont écrit à la suite de ces événements. Ensuite, on va parler de Internet et de l'IVG, et puis surtout de la propagande et des anti-IVG. Voilà, ensuite il y aura quelques brèves du désordre local. Voilà, et pour finir, on reviendra sur Vincennes et le procès des sans-papiers qui se sont révoltés et qui ont brûlé leur centre de rétention. Voilà. Donc, on va.
Eh bien, oui, donc comme tu l'as dit, aujourd'hui, on voulait vous. Passer la lecture en fait du communiqué des travailleurs. En fait, ils ont monté un collectif. Ce collectif s'appelle le collectif des travailleurs africains de Rosarno. Et en fait, ils ont écrit ce communiqué suite. Alors ça s'est passé il y a un mois. En fait, effectivement, c'était en Calabre, dans le sud de l'Italie, dans la ville de Rosarno. C'est une ville agricole. Enfin, agricole. C'est une région agricole en fait.
Où il y a 15 000 habitants. Et donc l'agriculture là-bas, c'est plus des agrumes et des oliviers. Et c'est des petits jardins de quelques hectares, où il y a 3000 familles, je crois. 3000 familles qui vivent, ou peut-être 2000 familles qui vivent de l'agriculture.
Et vous en souvenez peut-être, mais il y a un mois de ça, beaucoup de ces travailleurs saisonniers se sont révoltés face... À beaucoup de choses, on essaiera d'y revenir tout à l'heure, après la lecture du communiqué. Mais on trouvait intéressant de vous faire la lecture de ce communiqué aujourd'hui. De toute façon, vous allez voir, vous allez entendre, ils vont revenir un peu sur les raisons de tout ça. Et puis aussi, c'est un peu d'actualité également, puisque en fait, aujourd'hui même, à Rome, cet après-midi, c'est ce collectif des travailleurs en fait va faire une manifestation. Donc voilà, à Rome en Italie, pour plusieurs raisons. Et ils sont même unis avec certaines associations antiracistes et autres. Donc ça se passe aujourd'hui à Rome. C'est la deuxième manifestation en fait qu'ils font à Rome suite à cela. Bon bref, nous ce qu'on voulait un peu c'est revenir un peu sur ces événements de Rosarno qui se sont passés il y a un mois. Je pense qu'on peut tout de suite éventuellement vous passer la lecture du communiqué que les travailleurs africains de Rosarno ont fait.
Last 2 years they shot 2 people. Last year they shot 3 people. This year they shot 3 people. We complain to the commune, 6 people rather. We complain to the commune, no resolve. Every day they will tell us that we are going to resolve the situation, but still there's no resolve. That's why we decided as human beings, we think like them. That's why we also decided to do the riot yesterday in favor of our life.
Les mandarines et les olives, ça ne tombe pas du ciel.
Le 30 janvier 2010, nous nous sommes réunis pour constituer l'Assemblée des travailleurs africains de Rosarno à Rome. Nous sommes les travailleurs qui avons été obligés de quitter Rosarno après avoir revendiqué nos droits. Nous avons travaillé dans des conditions inhumaines, Nous vivions dans des usines abandonnées, sans eau ni électricité. Notre travail était sous-payé. Chaque matin à 6 heures, nous quittions les endroits où nous dormions pour ne rentrer qu'à 8 heures du soir. Tout cela pour 25 euros qui ne finissaient même pas toujours dans nos poches. Parfois, nous n'arrivions même pas, après une dure journée de travail, à nous faire payer. Nous rentrions les mains vides et le corps plié de fatigue. Nous avons été pendant de nombreuses années objet de discrimination, exploitation et menaces en tout genre.
Da noi non avranno niente. Il nostro governo ci sta bene, Berlusconi ci sta aiutando e noi siamo con lui. È inutile che loro fanno queste cose che girano e non rigirano. I neri non li possono votare. Lei lo sa perché lo Stato non.
Les mandarines et les olives, ça ne tombe pas du ciel. Nous étions exploités le jour et pourchassés la nuit par les enfants de nos exploiteurs. Nous avons été tabassés, menacés, traqués comme des bêtes, enlevés. Quelqu'un est disparu à jamais. On nous a tirés dessus, par jeu ou pour défendre nos intérêts personnels. Nous avons continué à travailler. Avec le temps, nous sommes devenus des proies faciles. Nous n'en pouvions plus. Ceux qui n'ont pas été blessés par des projectiles ont été blessés dans leur dignité humaine, dans leur fierté d'être humain. Nous n'en pouvions plus d'attendre une aide qui ne serait jamais arrivée parce que nous sommes invisibles. Nous n'existons pas pour les autorités de ce pays. Alors, nous nous sommes montrés. Nous sommes descendus dans la rue pour crier notre existence.
Some say I stayed here for this is my fifth month. I'm telling my sister, I don't have more than 200 euros with me. I don't have nothing. There's no job to do, no place to sleep. Now right now that I'm going out of here, I don't know where I'm going. I roam about throughout Italy, going to Bologna, Modena, Reggio Emilia, etc. But Napoli, no place to sleep, no food to eat, nothing.
Les mandarines et les olives, ça ne tombe pas du ciel.
Les gens ne voulaient pas nous voir. Comment quelqu'un qui n'existe pas peut-il donc manifester ? Les autorités et les forces de l'ordre sont arrivées et nous ont évacués de la ville car nous n'y étions plus en sécurité. Les habitants de Rosarno se sont mis à nous courser, à nous lyncher. Cette fois, ils avaient organisé de véritables chasses à l'homme. Nous avons été enfermés dans des centres de rétention pour immigrés. Beaucoup d'entre nous y sont toujours. D'autres sont retournés en Afrique. D'autres sont dispersés dans les villes du sud. Nous, nous sommes à Rome. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sans travail, sans nulle part où dormir, sans nos affaires. Et nos salaires impayés sont toujours dans les mains de nos exploiteurs.
Tell Italians that this problem does not cause from us. It's rather from the Rosarno people. They have been killing us. Should we sit down and be looking at them to be killing us? Are we animals?
No.
If I kill you today, the next day I kill your brother, will you sit down and look at it? I have to react. And this is the reaction. If you are killing me and I destroy the property, why should you take my fault? So tell Italians, it's not our making. It's the making of their brothers in Rosarno. They are causing it. They are killing us. So we have to protect ourselves in any way. Now in any way we have to protect them. Look, if you want to leave them, let them come. We are ready. Some will survive. If they come with guns, some of us will survive here in this camp. We don't care. You understand me? So this is not the first time. They say they hate blacks. And if really they hate us, they should give us the opportunity to leave the city. And that's all.
Les mandarines et les olives, ça ne tombe pas du ciel.
Nous affirmons être des acteurs de la vie économique de ce pays, dont les autorités ne veulent ni nous voir, ni nous écouter. Les mandarines, les olives, les oranges ne tombent pas du ciel. Il y a des mains qui les cueillent. Nous avions réussi à trouver un travail que nous avons perdu simplement parce que nous avons demandé à être traités comme des êtres humains. Nous ne sommes pas venus en Italie pour faire du tourisme. Notre travail et notre sueur servent à l'Italie comme ils servent à nos familles qui comptent beaucoup sur nous. Nous demandons aux autorités de ce pays de nous rencontrer et d'écouter nos demandes. Nous demandons que le permis de séjour accordé pour raisons humanitaires aux 11 Africains blessés à Rosarno nous soit accordé aussi à tous, victimes de l'exploitation et de la situation irrégulière qui qui nous a laissés sans travail, abandonnés, oubliés, à la rue. Nous voulons que le gouvernement de ce pays assume ses responsabilités et qu'il nous garantisse la possibilité de travailler dignement. L'Assemblée des travailleurs africains de Rosarno à Rome.
Now, tell Italians when we want Rai Uno, Rai Due, when they show the violence, they show we the blacks, the destruction that we are causing, that we are troublesome, that we are destructive, that we are cannibals. You understand me? They don't go to the grassroots of the problem. The grassroots of the problem is the Rosarno people are killing us day by day, year by year. Whenever we come here, they shoot blacks. Should we sit down and look at them? But Italians will never listen to that. They don't know that because you, the journalists, don't tell them. And right now, we, the blacks, are taking you, the journalists, and the Rosarno people as the same. Because when we speak the reality to you, you don't tell Italians. Italians are taking us as the riot people. We are causing the problem, and it's not we. It's the Rosarno people that are causing the problem, and you, the journalists, because you don't tell them what is really happening. Yeah, as we are speaking, you won't tell them.
Voilà, donc ça c'était, on a écouté le communiqué des travailleurs africains, de l'Assemblée des travailleurs africains de Rosarno à Rome, qui a été publié le 30 janvier. Et au milieu, la voix que vous entendiez, c'est un gars, en fait, un des travailleurs africains qui travaillait là-bas, qui parle dans un reportage qu'on a trouvé sur un site qui s'appelle Storie Migranti, où il y a beaucoup, beaucoup d'infos sur Rosarno, entre autres, tout ce qui s'est passé là-bas. Et je crois bien que si on a choisi la voix de ce monsieur-là, c'est parce que c'est une des rares personnes qui a été montrée dans les médias, pas comme demandant à l'aide et au secours et tout ça. Et lui, il dit... Enfin, je ne sais pas si vous avez compris, parce qu'il parlait en anglais, mais il exprime sa colère et il dit... On a essayé de nous tuer, on nous a tués, on nous a surexploités. Donc nous, on a répondu. Et il faut que les Italiens soient au courant de ça. Voilà.
Il faut aussi rappeler qu'ils prenaient les médias comme... à la fin, ils disaient, oui, vous, les journalistes, vous êtes comme les habitants de Rosarno. Vous êtes contre nous et vous êtes pas des alliés. Quoi. Et il l'a bien rappelé à la fin. Et c'était cool que... Voilà.
Et donc voilà, donc comme le communiqué le rappelle, donc c'est des travailleurs saisonniers qui viennent chaque année donc faire la récolte des agrumes, principalement les mandarines, celles qu'on mange, enfin celles que la plupart des gens mangent au repas de Noël là, en famille autour de la table. Et voilà, donc c'est des c'est une organisation de production agricole qui est faite de telle manière que ben voilà, la main d'œuvre principale c'est des personnes qui viennent d'Afrique et de plus en plus de l'Europe de l'Est qui sont alors la plupart du temps on a les médias disent que c'est des sans-papiers ou alors en situation irrégulière sur le territoire, mais en fait pas forcément temps. La plupart ils ont des permis de travail ou ils ont des papiers en fait qui leur permettent de travailler quoi. Donc voilà, et on est dans le sud de l'Italie, en Calabre, avec une présence mafieuse qui n'est pas à négliger.
Bon, on peut en discuter.
Non, mais c'est pas pour dire que cette région n'est pas raciste en fait. c'est important de le dire puisqu'en fait, ces travailleurs sont alors surexploités. Ils vivent dans des conditions de travail et de vie en fait assez difficiles. Certains témoignages parlent de taxes en fait de 5 euros par trajet pour des camions en fait qui les emmènent de leur lieu de vie, c'est principalement des squats, jusqu'au lieu de récolte. Donc voilà, ils touchent une vingtaine d'euros pour une journée qui peut aller de 12 à 14 heures de travail par jour. Donc voilà, une situation tendue et des menaces et des intimidations donc envers ces populations saisonnières. Et c'est en début d'année 2010, donc le 7 janvier, bien qu'il y a deux personnes qui sont fait attaquer dans la rue par des tirs de fusil. S'en est suivi une révolte, une émeute dans la ville de Rosarno. Et s'en est suivi, donc forcément, une chasse.
Une réponse des habitants des locaux. Donc pendant, alors, ce qui s'est passé, alors, ils ont un petit peu. Donc, ils ont été la cible de tirs de fusil. Ils ont manifesté. Alors, à Rosarno, il y a environ 1100 personnes migrantes alors, qui travaillent dans l'agriculture. Donc, ils ont manifesté. Pendant ces manifestations, il y a eu des voitures de brûlées, des vitrines de cassées. Donc, enfin, c'est pas pour dire que c'est pas bien. Mais, et puis ensuite, le lendemain, il y a eu les habitants qui ont manifesté contre les travailleurs migrants en érigeant des barricades et en occupant la mairie. Ça, c'est rigolo. Mais ils n'ont pas fait que ça. Ils ont aussi constitué des milices citoyennes. Donc, ils appellent ça les milices citoyennes donc pour remettre de l'ordre. Ce qui veut dire, en gros, recenser un peu s'attaquer quoi ? S'attaquer aux migrants, quoi. S'attaquer, expulser, chasser les migrants, la chasse aux migrants. Donc, sous prétexte de citoyenneté, se sont constituées des milices citoyennes. Voilà.
Et tu, a priori, c'est légal en Italie.
Ah oui, maintenant c'est légal de constituer des milices comme ça d'ordre, pour remettre, alors entre parenthèses, de l'ordre. Donc, bien sûr, ça touche en premier les migrants, hein, parce que d'ailleurs, vers le mois de décembre, vers Noël, dans une ville en Calabre, je crois, ils ont fait une opération Noël Blanc. Alors, Noël Blanc, ça consistait à recenser et expulser les migrants.
Ah là là. Ouais, donc en fait, en Italie, le contexte est particulier.
C'est l'esprit de Noël.
Ouais. Ah oui, les clémentines, tout ça. Et en fait, l'an dernier, le gouvernement italien a fait adopter une loi, en fait, qui c'était une loi, c'était le paquet sécurité en fait, hein, qui avait été voté. Et dans ce paquet sécurité, on retrouvait plusieurs choses en fait. Déjà la création du délit d'immigration clandestine, qui se montait principalement à des montants exorbitants d'amendes, plusieurs milliers d'euros. Et puis donc la légalisation.
Et puis probablement 6 mois de prison aussi. Pas que des amendes.
Ah, j'ai pas vu ça.
Tu peux encourir 6 mois de prison si t'es clandestin.
Et donc la légalisation des milices citoyennes. Alors c'est important de préciser quand même que les milices citoyennes, alors ils appellent ça ronde citoyenne en fait. Hein, c'est pour la veille du bon ordre dans les rues, sur l'espace public en Italie. En fait, ces milices citoyennes, en fait, elles avaient déjà été expérimentées principalement dans le nord de l'Italie en fait, où c'est la Ligue du Nord. La Ligue du Nord, c'est un parti d'extrême droite très puissant en Italie, qui est de très lié au gouvernement de Berlusconi. Un de ses leaders, en fait, c'est comment il s'appelle ? Alors, je l'ai écrit parce que je m'en souviens. C'est Roberto Maroni, en fait. Roberto Maroni, c'est tout simplement le ministre de l'Intérieur. Donc, pas étonnant que la Ligue du Nord fasse voter une loi sécuritaire orientée principalement, en fait, contre les populations migrantes en Italie. Voilà. Et pour anecdote, en fait, la Ligue du Nord, donc, qui avait expérimenté déjà ses milices citoyennes dans l'Italie, dans plusieurs villes, porter un uniforme, et c'est ce qu'on appelle maintenant les chemises vertes. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est les chemises vertes, en fait, qui font des rondes.
C'est le bon ordre écologiste. Et alors, peut-être qu'on va aller vite, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, tous nos amis migrants?
Alors, suite à ces révoltes, effectivement, les forces de l'ordre n'ont pas tardé à venir, à débarquer à Rosarno, dans la ville de Rosarno. Et la plupart, en fait, ont été emmenés en centre de rétention. J'ai pas trouvé d'infos, par contre, pour voir si elles ont été expulsées, en fait.
Il y en a qui ont été expulsées. Alors, au début, la promesse, c'était de les emmener loin de Rosarno. Donc, tout le monde y a cru. Ils se sont retrouvés en promettant que personne ne serait expulsé. Donc ils y ont cru, les gens y ont cru. Et en fait, non, ils se sont retrouvés en centre de rétention. Il y en a qui se sont fait expulser. Et je ne sais plus quel ministre a dit, ceux qui n'ont pas de papier, on va les expulser. Donc pas de pitié pour la guerre comme à la guerre, quoi.
Voilà, d'autres personnes apparemment seraient dispersées dans d'autres villes en Italie, puisqu'en fait, il faut savoir qu'en dans le sud de l'Italie, il n'y a pas que les clémentines qui font l'objet de travail saisonnier. Il y a les olives, il y a les pommes de terre, etc. Bon, voilà. Et donc il y a certaines personnes donc, qui étaient déjà en situation régulière en fait sur le territoire italien et qui sont restés en Italie et qui ont monté donc voilà ce collectif, cette assemblée de travailleurs africains, voilà, dont on a lu le communiqué tout à l'heure.
Et aussi, en fait, il avait été annoncé par le gouvernement que les 11 Africains blessés auraient droit à un permis de séjour.
Pour raison humanitaire.
Voilà, pour raison humanitaire. Et donc, c'est pour ça que tous les autres demandent à avoir ce permis de séjour aussi, même s'ils n'ont pas été blessés officiellement à Rosarno.
Ils demandent au moins d'être, ces raisons humanitaires demandent à être appliquées pour cause d'exploitation intensive. Voilà.
Et sauf qu'en plus, il disait, en fait, c'est le site de Migre Europe qui a fait une observation là-bas dans un espèce de centre de rétention qui s'appelle CIE, là-bas, à Bari, et qui disait qu'il y avait un des gars qui avait été blessé à Rosarno. Ben, il n'avait pas du tout droit au permis de séjour pour réseau humanitaire. Il était au centre de rétention, il était blessé, il allait se faire expulser.
Rappelons aussi que la durée de maximale en centre de rétention en Italie est passée de 2 mois à 6 mois. Ça, c'était aussi dans cette loi du fameux paquet sécuritaire italien. On va passer à autre chose après. On pourra en parler plus longuement. Mais moi, ce que je voulais juste dire, c'est que cette pensée, elle va paraître un petit peu désordonnée, mais certaines pensées réactionnaires en France pourraient faire dire que voilà, on ferait mieux de passer à ça en France, là, les milices citoyennes en Italie. Alors, c'est vrai qu'en France, on a le débat sur l'identité nationale. C'est pas la même chose, mais même si les réponses légales, enfin les projets de loi qui vont suivre suite à ce débat sur l'identité nationale vont pas donner lieu à grand chose, si ce n'est le drapeau à l'école et limite le
La Marseillaise
obligatoire. Et ben, je pense qu'il faut rester très vigilant par rapport à ça, et parce que ça a le mérite au moins de lancer le débat en fait, lancer le débat quoi. C'est pas rien, mais c'est quand même beaucoup.
Moi je finis aussi encore comme ça, je fais péter le temps quand c'était imparti. En fait, cette histoire m'a fait penser à un truc que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. C'est Gérard Noiriel, c'est un historien qui est très intéressant, qui étudie entre autres l'histoire du racisme, de l'antisémitisme, en France notamment. Et lui, il a sorti un bouquin tout récemment, c'est marrant, quelle coïncidence, sur le massacre des Italiens à Aigues-Mortes en 1893. Et en fait, donc c'était en 1893, des travailleurs italiens immigrés en France ont été massacrés par la population locale. Et lui, il revient dessus, il exhume tout et il essaye en fait de faire comprendre un peu tout ce qui va avec, le contexte, comment on en arrive là, les procès qui suivent et tout. Alors voilà, j'imagine que c'est intéressant de lire des vieux bidules comme ça, même si les livres, c'est cher.
Et tout à l'heure, peut-être à l'agenda, on aura l'occasion justement de réévoquer ce besoin, j'ai envie de dire, de vigilance anti-nazi, anti-raciste et anti-xénophobe.
Et anti-milice, tout à fait.
Ouais. Anti-capital.
Et en tout cas, en attendant, on écoute une chanson italienne.
Cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne quindicenni, gli operai con gli studenti, il potere. Sistema del padrone, sempre uniti vinceremo. Viva la rivoluzione, quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli e l'ho visto le auto blindo. Rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. Oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne quindicenni, gli gli operai, con gli studenti, il potere agli operai, dal sistema del padrone, sempre uniti vinceremo. Viva la rivoluzione, quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate, poi bruciate, tanti e tanti poliziotti con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta lotterà con noi domani. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi è esitato questa volta.
Et voilà, donc vous venez d'écouter Alfredo Bandelli, voilà, qui en 1970 interprète une chanson qui s'appelle La Violenza et qui parle je sais pas comment dire, il parle en fait de la violence de l'État et des policiers dans une manifestation, et ben les manifestants, ils en ont marre, alors ils y répondent, en gros. Voilà. Maintenant on va passer à autre chose. Donc un article que j'ai trouvé sur internet, un message qui circule sur le net, pour une fois c'est pas un canular, en fait c'est des personnes qui se sont rendues compte qu'il y avait des sites qui se faisaient passer pour des sites d'information sur l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, qui en fait étaient des sites de propagande anti-IVG mais déguisés en sites d'information. Donc en gros, le risque, c'est que des femmes qui sont enceintes et se posent des questions ou bien ont envie d'avorter, enfin en tout cas ça peut être une situation très difficile, elles se disent « Ah bah je vais chercher des infos sur internet » et elles tombent sur des sites qui en fait leur donnent des informations très très partiales sous couvert d'impartialité. Notamment l'un de ces sites les plus hallucinants à mon avis, il s'appelle Centre de documentation médicale sur l'avortement. Il fait très très site prout-prout institutionnel et médical et tout. Et en fait, dès que vous lisez ce qui est écrit dessus, si vous y connaissez un peu, vous vous rendez compte que c'est que des informations qui parlent de l'avortement en négatif, qui vous disent que c'est risqué, etc., etc., que c'est dangereux, que et quand même il vaut mieux pas avorter et tout, mais c'est tout dit en implicite, etc. Et en plus, ils font un numéro vert, alors ça c'est hallucinant, avec soi-disant des écoutantes professionnelles qui vont vous conseiller si vous êtes enceinte et que vous ne savez pas quoi faire et tout ça, et que vous posez des questions. Et donc en fait, il y a une nana qui fait un site qui s'appelle Zone Zéro Gêne, qui est une des premières personnes à s'être rendue compte un peu de ces arnaques sur le net et à les dénoncer. Et ben elle a écrit un article pour raconter qu'elle a appelé à ce numéro vert. Et déjà, elle est tombée sur une nana. Donc d'abord, elle est tombée sur un répondeur personnel d'une nana. Donc elle s'est dit bizarre pour un numéro vert. Et ensuite, elle est tombée sur la nana. Elle raconte, donc si je vous conseille d'aller voir directement sur ce site Zone Zéro Gêne pour les détails. Mais en gros, elle a été effarée par la manière dont elle a été reçue, par la manière très réactionnaire dont on lui a répondu. Et en gros, elle s'est dit, si j'avais été une jeune femme ou une femme pas jeune, en détresse, qui se pose plein de questions et que j'avais appelé cette nana, elle m'aurait vraiment pas aidée à part me culpabiliser, quoi. Donc voilà, c'est un des exemples. Donc, des sites comme ça, il y en a plusieurs. En fait, si vous voulez, des associations ou des groupes anti-avortement ont racheté des noms de domaines sur Internet. Donc, en gros, on achète une adresse avec un nom et donc on a cette adresse. Et ensuite, ça fait qu'on est référencé sur Google. Donc après, par exemple, lequel ? avortementivg.com. Il appartient à des anti-IVG. Donc, si tu tapes avortement ou IVG sur Google, tu peux tomber là-dessus. Donc, ces sites, ils sont en première page sur Google quand on tape avortement ou IVG. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils ont réussi. Ils ont même fait pour les jeunes un blog sur Skyrock, sur Skyrock Blog, là, le truc des adolescents. Et donc qui se présente pareil comme un truc pour débattre sur l'IVG, en fait avec des clips et des machins. Enfin, c'est vraiment très bien fait pour les jeunes. Ça paraît neutre, ça l'est pas du tout, quoi. Ça raconte des histoires, genre une nana qui est trop triste parce qu'en fait c'est son mec qui l'a forcée à avorter, donc elle est trop malheureuse, des trucs comme ça. Et ils réussissent même, ils vont dans les forums internet, ils racontent n'importe quoi, ils réussissent à avoir des petites pubs sur Google et tout, voilà. Donc, la réaction que des personnes ont eue face à ça, c'est de racheter, elle aussi, donc c'est le blog Journal d'une peste, qui a racheté un nom de domaine. Donc c'est passionnant, hein, c'est la lutte sur Internet. Ce nom de domaine qui s'appelle sosivg.net, et ce qu'elles font dessus, c'est qu'elles mettent juste des liens vers des organismes qui réellement aident, soutiennent, conseillent, aiguillent les femmes enceintes qui voudraient avorter ou qui se posent des questions. Voilà, et donc en fait, en gros, elles vous proposent d'agir en allant sur ces sites pour qu'ils soient référencés sur Google. Enfin bon, bref, après, ça, c'est des trucs qui me dépassent un peu. Mais...
Et peut-être faire un appel aux camarades pirates qui pourraient peut-être faire des attaques contre ces faux sites déguisés. Ouais.
Pourquoi pas. Et en tout cas, voilà, ce qu'elles rappellent aussi. En fait, ces nanas qui ont dénoncé cette propagande anti-IVG déguisée en information sur l'IVG, elles, ce qu'elles disent, c'est nous, on ne dit pas on est pour ou contre l'IVG, il faut faire ci, il faut faire ça. Nous, on veut que chacune puisse choisir. Et pour pouvoir choisir, il y a des outils, il y a des lieux où on peut être conseillé et aidé. Donc nous, on ne va pas se substituer à ça. Et donc ces personnes, elles rappellent que quand on est enceinte et qu'on a besoin de conseils, de soutien, d'accompagnement, on peut s'adresser au planning familial. Il y a toutes les infos et tous leurs sites sur Internet. On peut s'adresser à l'ANCIC, A-N-C-I-C. C'est l'Association nationale des centres d'interruption de grossesse et de contraception. Donc tous les lieux où on peut se faire avorter ou avoir des conseils sont référencés. Voilà, et cette info, je l'ai trouvée sur un blog plutôt intéressant qui s'appelle le Z Strasbourg, voilà, sur overblog.com.
Et moi, je l'ai vu sur le site du numéro 0.
C'est oui, c'est vrai, maintenant, c'est sur le site du numéro 0. C'est bien. Hein. Il y a drôlement de bruit en studio. Hein. Bon, voilà, et ben, j'en ai fini avec cette histoire de salauds, de gens qui font de la propagande anti-IVG. Donc, on va écouter un peu de musique. C'est ça, hein. Un peu de surf music.
Passons à présent aux brèves du désordre local, celle du mois de décembre dernier. Chaque jour, généralement dans la rubrique « Faits divers », la presse locale rencontre des actions des combattantes invisibles de l'anti-France et de leurs déboires. Et pour les apercevoir, le plus souvent, il n'est même pas besoin de lire entre les lignes. Et commençons par cette activité si décriée qui consiste à produire des ruines et des cendres. On le répétera jamais assez, la lutte armée paye, et même à Saint-Bosire. Et oui, le dimanche 6 décembre, un chasseur se tire malencontreusement une balle dans le pied. Il est hospitalisé et très certainement il va s'en tirer, mais bon, allez, tant pis, c'est pas grave, la prochaine fois on fera mieux. Un monde bien propre, un monde bien clean, un monde où ne rien ne dépasse, mais quelquefois, quelques petits accrocs, quelques petits incidents, et ça arrive même à Saint-Étienne, au Grand Clos, où une voiture est malencontreusement incendiée au milieu d'un escalier à l'extérieur d'un immeuble entre les rues Varlin et Chavassieux, et restée là, comme ça, pendant 15 jours, sans que personne vienne y toucher, un cadavre de voiture calciné qui gênait la vue et la circulation. Mais ne vous inquiétez pas, depuis, tout est rentré dans l'ordre. Le Chambon Feugerolles, toujours fidèle à ses pratiques, entre minuit et 4 heures du matin, le jeudi 10 décembre, plusieurs incendies de voitures et au bilan, seulement 5 voitures, mais c'est déjà pas mal. Mieux qu'à Firminy en tout cas, ou dans la rue Bois-Boileau, dans la nuit de mardi à mercredi 9 décembre. Là, ce sont toutes, pratiquement toutes les voitures de la rue Blanc-Boileau qui ont vu leurs pneus crever. Et oui, et là, encore une prise d'otage de travailleurs qui ont dû arriver en retard. Là, 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 là. À Rouen, le 15 décembre 2009, un homme de 48 ans, qui avait déjà été condamné 19 autres fois, a pris 6 mois ferme pour une lettre d'insulte qu'il avait envoyée au juge des applications des peines le 20 mai 2008. Et qu'est-ce qui motivait cette lettre ? Eh bien, c'est que ce dit juge avait refusé que le fils de cet homme puisse sortir de la prison où il était enfermé pour aller à l'enterrement de sa sœur, ce que le père a fort mal pris. Il faut dire aussi qu'à cette époque, il était à la prison de Villefranche, le père, et qu'il avait malencontreusement pris en otage un gardien, car il refusait de comprendre qu'il n'ait pas eu communication du rapport d'autopsie de sa fille. Voilà un homme qui a de la suite dans les pratiques. Depuis maintenant un peu plus d'un an, on voit se multiplier les petits braquages, comme ils appellent ça, c'est-à-dire les bureaux de tabac, les boulangeries, les petites supérettes de quartier, et ça n'arrête pas. Et notamment, c'est arrivé encore une fois à Lormes, le 27 décembre, un dimanche, où un magasin Jiffy a été braqué. Et voilà, et dans la Loire, c'était le 8e en 10 jours des fêtes de fin d'année pour tout le monde, même les braquages. Et voilà. Et mais l'inspecteur et la police est sur les dents, et un inspecteur est même déclare que ce sont souvent des petits braquages commis par des individus qui habitent à proximité, un braquage de proximité en quelque sorte, et qui évidemment protègent leur fuite. Ce sont des braqueurs d'occasion qui ne récidivent pas, ce qui rend très difficile le recoupement, pouvoir les identifier. Voilà, pauvre police, pas des vies faciles. C'est la fin d'année, une période de fête, Noël, le réveillon, et c'est la fête du vandalisme aussi, et notamment au Puy-en-Velay, où on a assisté à 2 nuits de vandalisme. La première, du dimanche à lundi 28 décembre, où l'éclairage de cette ville a été fortement perturbé par un acte de malveillance, et ensuite dans la nuit du mardi au mercredi 30, où cette fois s'en est pris au réseau, une personne ou des personnes s'en est pris au réseau électrique et au réseau de gaz. Le directeur adjoint de l'ERDF local nous avertit: nous avons affaire à un pro, mais je ne sais pas s'il mesure vraiment les risques qu'il prend. Et puis bon, il y a aussi à Clermont-Ferrand, où là c'est une piscine qui est visée, non pas le bassin mais le toit du dôme qui le recouvre, qui a été attaqué à coups de carton enflammé et de produits de combustible. Et voilà. Bien. Et continuons maintenant en nous plongeant dans le merveilleux monde du travail, de la lutte des classes et de ses petites vicissitudes. C'est une rubrique que j'aime bien appeler « Vivre en combattant ou mourir en travaillant ». Le 4 décembre, le tribunal de Montbrison fait connaître sa décision concernant une affaire qui remonte au 22 mai 2008. Cette affaire se passe à Fermetal, une fonderie où un homme, un fondeur, est tombé dans du métal en fusion à plus de 1000 degrés. Il est hospitalisé, mais malheureusement meurt 10 jours après des suites de ses blessures. Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas d'explication à cette chute et qu'elle était due à un manque de sécurité et il a donc condamné le PDG à 40 000 euros d'amende. Voilà. Le 9 décembre démarre dans tout le sud-est de la France une grève dans les entreprises Autobar. Autobar est spécialisé dans l'installation de distributeurs automatiques de boissons. Ses salariés réclament une augmentation de salaire d'un montant de 90 euros par mois et non pas les 5 euros par trimestre que propose la direction. Ils veulent également le maintien des deux primes annuelles de 100 euros et la mise en place d'une complémentaire santé. À Saint-Étienne, cette grève va durer en tout 13 jours et concernera 30 des 57 employés, avec tout un tas de manifestations et d'activités de tractage et autres démarches, et également l'occupation jour et nuit des abords de l'entreprise. Malheureusement, la direction locale va riposter et en engageant des poursuites contre 14 grévistes qu'elle va assigner au TGI pour entrave à la circulation des personnes et des démarches. Une démarche judiciaire qui va s'interrompre avec la fin de la grève. Le résultat est assez décevant parce que ne vont être remis en place que non pas les augmentations de salaire et le maintien de la prime, et ne sera retenu que la mise en place de la complémentaire santé qui va concerner tous les salariés cette fois et non pas comme c'était jusqu'à présent le cas que pour les cadres et le personnel de maîtrise. À Brive-Charensac, le jeudi 10 décembre, un homme conduisait un chariot élévateur. Malheureusement, au cours d'une manœuvre, ce chariot se renverse sur le flanc et l'homme est coincé entre l'arceau de sécurité et le sol et il est écrasé. Malgré l'hospitalisation à l'hôpital du Puy-en-Velay, il va mourir de suite de ses blessures. Le mardi 15 décembre, à Chazelles-sur-Lyon et dans l'entreprise BorgWarner, qui auparavant s'appelait Beru et qui fabrique des bougies d'allumage, se fait l'annonce d'un plan dit de sauvegarde de l'emploi. En fait, il concerne notamment 57 emplois sur les 316 et qui vont prévoir qu'il est prévu de supprimer. Purement et simplement, et ce dès le début de l'année 2010. Suppression motivée par ce qu'ils appellent l'externalisation d'une partie de l'activité, c'est-à-dire qui se fera ailleurs, et la sous-traitance d'une autre partie de l'activité, notamment le ménage. Il faut rappeler qu'il y avait déjà eu une première vague de suppression d'emplois en 2006 et qu'il y en avait supprimé 81. Le lendemain, les salariés décident de se mettre en grève pour au moins 48 heures avec une occupation des lieux. Et elle va concerner, motiver, mobiliser 95% des personnels. Ils protestent en fait contre la proposition de la direction qui, en échange du sauvetage de 20 postes, ils appellent ça le sauvetage de 20 postes, ils exigent un certain nombre de concessions. Oh, pas grand chose, le gel des salaires, l'annualisation du temps de travail et la renégociation des acquis, notamment sur les primes. Bref, ils sont prêts à faire feu de tout bois, mais les amis de BorgWarner vont pas se laisser faire et on va en entendre parler, et notamment récemment encore, avec un coup d'éclat le week-end dernier. Et voilà, c'est fini pour ce mois de décembre. On se retrouve pour la prochaine fois pour d'autres brèves du désordre local. Mais d'ici là, pas la peine de s'impatienter. En effet, tout cela s'est arrivé près de chez vous.
L'Élysée, brûler ma carte de résident. Avant que les KISDN réalisent, j'aurais kidnappé la femme du président. Je l'emmènerai dans ces coins sordides où les Français vivent la mort au bide. L'esprit plein d'idées morts. Bide, je lui collerai un voisin taré, 5 gosses dans un 40 mètres carrés. Comme un papillon, j'y couperai les ailes. Le président dira que ça pue chez elle. Elle aura un mari au chômage depuis 2 ans. Jean plein de poches, rien dedans. Elle vivra l'esprit torturé comme par une rage de dents. Je lui ferai la peau mate, couleur sombre que les flics mate. Grillée jusqu'à l'épiderme, sa vie emportera les stigmates. Elle vivra comme elle peut parce qu'elle aura pas de taf. Elle vivra de rien parce qu'elle aura pas de faf. Quand elle verra le système et ses vices. Des corps sinistres, des appels au secours au ministre. La haine en elle s'administre. Un gosse mort comme Clyde Bourreau, un autre derrière les barreaux. Le plus jeune tombe pour une Marlboro. Son quotidien, prison pleine, journal du soir, chrysanthème. Son jardin secret, un champ de chrysanthème. Elle pleure, un boulard souille son honneur. Elle saura pourquoi mes textes respirent le bonheur. Charentaise, Nike, rose, meringue, prose de poudre blanche, sa vie écrite à l'encre d'une seringue. Et puis, je l'emmènerai au sommet d'une tour, contempler sa nouvelle vie, et je la laisserai là, seule devant le vide. Seule devant le vide. Et puis, je la laisserai là, seule.
Voilà, on vient d'écouter INSA 3 kilos de haine dans un titre qui s'appelle Kidnapping. On rappelle aussi que pendant les brèves du désordre, la musique qui accompagnait, qui justifiait, a été composée dans un premier temps par La Rumeur et dans un deuxième temps par Godspeed You, Black Emperor. Voilà, et bien, on peut parler maintenant de revenir sur Vincennes.
Voilà, tout à fait. Donc, excusez-moi. En fait, il y a 2 semaines, on vous a largement parlé de du procès de Vincennes, ce qu'on appelle le procès de Vincennes. Donc, en gros, c'est le procès contre 10 personnes qui étaient détenues au centre de rétention de Vincennes quand il a brûlé en juin 2008. Et donc, ces 10 personnes sont accusées d'être celles qui ont mis le feu. Voilà. Donc, on vous en a largement parlé. Là, je voulais juste faire un petit retour parce que on n'est pas des vrais journalistes, mais on essaye de suivre l'actualité et de vous en faire part. Voilà. Donc l'audience de ce procès, elle a commencé le 25 janvier. Au début, il devait se passer du 25 au 27 janvier. Et je rappelle, juste avant, il y avait une semaine de solidarité dans toute la France, un peu, et voire même au-delà, avec ces inculpés. Donc, juste pour raconter vite fait le procès, il n'y a apparemment pas grand-chose à raconter, et en fait, beaucoup. En gros, on en avait déjà parlé, l'instruction a été complètement menée à charge, le procès pareil. En gros, c'est-à-dire que la justice a l'air de s'en moquer éperdument de, vous voyez, mettre les faits dans la balance, écouter les accusés, écouter ceux qui accusent, tout ça, là, comme est censé être la justice. Et la justice ce qu'elle veut, comme l'État, c'est trouver des coupables et les condamner lourdement, parce qu'elle a quand même, il y a quand même une prison qui a cramé, quoi. En fait, ça, enfin, moi personnellement, pour ce que j'ai vu de la justice, c'est souvent comme ça. C'est souvent fait construit à charge, donc c'est-à-dire contre les accusés. Mais juste là, le petit hic, c'est que les avocats de la défense, eh ben, ils ont la niaque, et donc ils laissent rien passer. Donc ça fait que les trois premiers jours d'audience, ils ont été composés à 99% de, comment dire, de ce que d'autres ont appelé incident, c'est-à-dire les avocats qui disent ça va pas, on demande un report, ça va pas, on demande ce que l'instruction soit refaite. Donc le procès, eh ben, il n'a pas eu le temps de se faire en trois jours, il a été reporté, mais comme les juges et tout, ça les a énervés. Et eh ben, l'audience, elle a été reportée à 9 jours étalés sur 3 semaines. Donc, en fait, les avocats de la défense, ils n'ont pas le temps de travailler. Donc, en fait, en gros, la semaine suivante, donc c'était la semaine dernière, ils se sont pointés au procès. Ils ont dit non, mais là, c'est n'importe quoi. On ne peut pas travailler, on ne peut pas défendre nos clients. On n'a pas eu le temps de travailler, on n'a pas eu le temps d'avoir les nouvelles pièces, etc. Donc les prévenus, donc les accusés et leurs avocats se sont barrés de la salle. Donc en gros, pour l'instant, eh ben, ça fait des juges et tous les accusateurs qui ont regardé des bandes de vidéosurveillance pendant trois jours. Et puis ça n'avance pas et la justice fait son travail comme d'habitude.
Des bandes de vidéosurveillance du centre de rétention, oui, justement, voilà, au moment de l'incendie. Et qui apparemment seraient les seules preuves pour incriminer les personnes inculpées. Et en fait, on ne voit rien. En justice, sur un écran, il y a 7. L'écran est divisé en 7 petits écrans de vidéosurveillance. En fait, on ne voit rien. Et puis,
voilà.
Donc, il n'y a pas de preuves, quoi.
Et donc, le procureur, donc, ils avaient donné ces pièces-là genre, le 27 décembre, ils avaient donné 25 janvier, ils avaient 27 janvier, ils avaient donné ces pièces-là pour la semaine d'après. Donc ils ont laissé deux jours aux avocats pour voir, visionner 30 heures de vidéosurveillance et faire des conclusions. Et juste pour rappeler que le procureur, l'État, tout ça, a requis 30 mois de prison ferme pour 4 à 5 personnes et 12 mois aussi, 12 à 6, enfin ça s'est allé entre 6 et 30 mois, 36 mois de prison ferme.
Donc voilà, tout ça, c'est encore à suivre. Donc on vous en donnera des nouvelles. Mais ce qui est à souligner, je pense, c'est que certains disaient, avant que le procès commence, ce procès doit être celui des centres de rétention, doit être une occasion pour dénoncer les centres de rétention. En fait, bien entendu, ce procès, comme la plupart des procès, c'est une mascarade. Il ne sert pas du tout à dénoncer les centres de rétention. Il n'y a pas de débat, il n'y a rien. Et par contre, c'est tout ce qui se passe autour de ce procès. Il y a des actions dans tous les sens depuis trois semaines, des actions de solidarité, des actions de dénonciation. Et c'est ça, je pense, qui fait la critique des centres de rétention autour de ce procès.
Donc par rapport à ces actions, il y a plein de trucs qui sont passés, les occupations d'Air France, de la Croix-Rouge, des manifestations où les rues sont redécorées, plein de tags. Il y a aussi la BNP, le Crédit Lyonnais qui sont attaqués, donc les distributeurs qui sont attaqués, cassés, tout ça. Et tout ça, c'est en solidarité avec les inculpés de Vincennes. Et ça, je trouve ça chouette comme action. Et ces exemples-là, il y en a plein, des manifs. Le 6 samedi dernier, il y avait plein de manifs à Nantes, à Paris, à Rennes, à Grenoble, je crois aussi. Voilà.
Ouais.
Donc à suivre.
Bon. En complément et des inculpés de la révolte de Vincennes et de ce qui s'est passé à Rosarno en Italie, on pouvait juste rajouter vite fait en deux minutes, si c'est possible quand même, que c'est pas sans rappeler une situation qui a lieu en Espagne, en Andalousie et notamment, je sais pas dans quel...
El Ejido, comme ils appellent ça. El Ejido, c'est pareil, c'est comme en Italie, il y a plein de travailleurs migrants. Et c'est pareil, c'est dans les mêmes conditions. Et il y a exactement 10 ans, en 2000, il y a eu le même événement. C'est-à-dire qu'il y a eu des émeutes raciales entre migrants et locaux, comme on dit, ou je sais pas comment on va dire. Autochtones, ou je sais pas, ou blancs, ou ce qu'on veut. Il y a eu des lynchages, tout ça, et pareil, le même processus.
Et voilà. Et les conditions de travail et de vie dégueulasses qui a lieu en Italie pour les travailleurs migrants, eh bien, figurez-vous qu'elles sont légales en France. Ça s'appelle des contrats OMI, qui sont issus des années 60-70. Je ne sais pas si ça s'appelle encore contrats OMI, mais bon, ils existent toujours. Et en gros, c'est des contrats légaux qui valisent des conditions de vie dégueulasses, etc. Il y a eu des luttes des contrats OMI il y a 2-3 ans, des grèves, des gens qui ont fait grève. Et voilà, donc c'est arrivé près de chez nous aussi.
Et je rappellerai aussi que pour en Italie, pareil, pour revenir à Rosarno, là il y a une coordination de travailleurs migrants qui parle de faire une grève générale le début du mois de mars. Première semaine du mois de mars, il y aura une grève générale de tous les travailleurs migrants. Donc il faut se tenir au jus. On fait un appel aux travailleurs migrants à Saint-Étienne, en France et partout. Grève générale, première semaine de mars.
Donc à suivre aussi, quoi. Donc,
voilà.
On va vite enchaîner, non ? Oui,
ouais.
Avec l'agenda. Un truc dimanche. Donc, je pense que vous avez probablement entendu parler que la grande mosquée au soleil à Saint-Étienne a été taguée avec plein de tags vraiment dégueux, racistes en fait. Pour moi, c'est pas du tout une question de religion, c'est une question de racisme et de petits fachos et de petits nazis qui sont allés s'amuser sur cette mosquée. Donc dimanche, donc on sera le 14, à 14h devant la grande mosquée, il y a un rassemblement pour protester contre ça et aussi pour, enfin, c'est lancé comme un rassemblement contre le discours islamophobe. Et c'est vrai que tout ça se passe quand même dans un climat où sous couvert de parler de religion en fait ou de parler d'identité nationale, et ben, les discours racistes fascistes, etc., se développent et sont banalisés.
Et ressurgent sans complexe. Ouais.
Tranquillou, quoi.
La burqa, tout ça, machin.
Voilà. Donc, dimanche, 14h, grande mosquée. Voilà.
C'est le thème de l'émission, là, le racisme, on dirait. Il n'y a pas de petits nazis, non, je pense. Il y a juste du racisme, et après. Mais il y en a plein partout dans la société.
Tout à fait.
On voulait aussi annoncer une projection. À la fac, le 17 février, ça a été rappelé hier pendant l'émission RAS, mais on va le redire.
C'est l'ordre des mots, en fait. Ouais. C'est le 17 février, 18h, à la fac, je ne sais plus dans quelle salle.
C'est à la salle SR2.
Dans le cadre de l'Université Solidaire. Donc, projection de l'ordre des mots, c'est un film qui laisse la place à des interviews de militants et militantes sur les questions de transgenre, transidentité, ne pas rentrer dans les cases masculin, féminin, hétérosexuel, tout ça, tout ça.
Et c'est un film, c'est un documentaire réalisé par Cynthia Ara et Melissa Ara.
Voilà, l'ordre des mots, 17 février.
On a d'autres trucs à annoncer ou non ?
Non.
Bon.
On écoute une petite musique pour se quitter.
Il y aura une bouffe végane aussi, le 17 février. Ça sera bon.
Ah oui, à l'occasion de ce film. Ouais.
Oui.
On se donne rendez-vous dans 15 jours. Cette émission sera rediffusée aujourd'hui à 17h.
Voilà, et dans 15 jours, peut-être bien qu'on parlera de végétarisme.
Ouais. Justement.
Ah oui, je voulais. bref, le dernier truc, c'est quoi ? Alors, dans les médias aujourd'hui, j'ai entendu un syndicat de flics qui menaçait de plus faire de garde à vue suite. Alors, vous savez, en ce moment, il y a un scandale sur les gardes à vue. Et ben, moi, je dis que de la gueule.
Ah ouais,
et je soutiens ces initiatives.
Alors là,
bravo.
Moi aussi, 100%.
Pour le moment, enfin, pour une fois, je soutiens syndicat.
Non, mais on ne soutient pas directement, quand même.
Ouais. Mais plus de garde à vue que de la gueule.
Et plus de commissariat, donc.